RFJ Info.
Le journal d'Émilie Momentaler.
Bonjour, une exposition d'une valeur inestimable à Delémont. Des toiles du peintre suisse Ferdinand Hodler prendront place sur les murs du musée jurassien d'art et d'histoire l'année prochaine. Des biens de l'artiste décédé il y a 100 ans seront aussi à découvrir. L'annonce de la concentration des activités de la SSR suscite de vives réactions à Berne. Certains invoquent un manque de considération pour certaines régions du pays, d'autres une volonté à terme de délocalisation en Suisse alémanique. Les lames du HC Franche-Montagne sont chauffées à blanc. Les hockeyeurs ténions commencent le championnat de Première Ligue samedi. L'entraîneur des finalistes de la dernière saison s'attend à un exercice serré. Météo, la journée sera bien ensoleillée avant l'arrivée de quelques cumulus dans l'après-midi. Le mercure est encore dans le rouge avec des pointes à 28 degrés en plaine, 24 à 1000 mètres. Une dégradation est annoncée ce week-end. Un événement artistique d'envergure s'annonce l'année prochaine dans le Jura. Le musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont accueillera du 25 mai au 20 octobre 2019 une exposition consacrée au peintre suisse Ferdinand Hodler, décédé il y a 100 ans. L'information a été donnée hier soir dans notre émission Place publique par le directeur des archives Jura Bruchweiler, Niklaus Manuel Gudel. L'institution, dont les bureaux sont situés à Delémont, profitera d'une exposition qui ouvrira ses portes le 3 octobre prochain à la Fondation Martha Bodmer à Cologne, pour la présenter ensuite dans le Jura. Le public pourra découvrir des documents et des objets de Ferdinand Hodler, mais aussi bien plus que cela, Niklaus Manuel Gudel.
On s'est dit que le public jurassien aimerait voir pas seulement des documents, mais aussi des œuvres. Et donc nous avons entrepris un certain nombre de démarches dans l'espoir d'amener, je dirais, entre 12 et 16 tableaux qui viennent de collections privées, de collections publiques, et qui vont être présentés donc au musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont. Et il y aura même une des 19 versions du bûcheron.
Alors les œuvres d'Hodler connaissent un regain d'intérêt, on peut dire, depuis quelques années. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié finalement au sujet de ces toiles qui montre souvent des paysages idylliques, une Suisse un peu rêvée, onirique, c'est dû à ça peut-être?
Je pense qu'il y a deux facteurs, dont celui-là. Le premier, c'est justement la montée régulière de ces prix, et donc plus les prix montent, plus on commence à observer l'artiste et à se questionner pourquoi et quelle place il occupe vraiment encore aujourd'hui dans l'histoire de l'art. Et puis le deuxième facteur, c'est effectivement la redécouverte progressive, je dirais à partir des années 70-80, de son œuvre de paysagiste qui a été exposée en Suisse, à l'étranger, de telle sorte que le public a pris conscience de la puissance de ces paysages. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les paysages qui ont du succès et lui permettent d'avoir l'aura qui l'entoure aujourd'hui, alors que de son temps, il a construit toute sa carrière autour de ses peintures historiques et de ses peintures de figures, de son œuvre symboliste.
Alors, un des grands collectionneurs d'Hodler, on le sait, c'est Christophe Blocher. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. Il y a peut-être aussi ce rapport à une Suisse rêvée, un peu fantasmée, qui s'explique par cette passion-là.
Mais je pense qu'au 19e siècle en particulier, tout peintre a une relation très étroite avec son pays, avec son terroir. Et pour Hodler, c'est même une question d'identité. C'est quand même quelqu'un qui a rénové toute l'iconographie historique de la Suisse et aussi toute l'image qu'on se fait des paysages de la Suisse et qui a donné, disons, un peu une image d'Épinal de notre pays. Et je pense effectivement que ça joue un rôle et que M. Blocher collectionne ces tableaux dans un premier temps parce qu'il les aime et dans un deuxième temps parce que c'est sa même identité. Et pour la petite histoire, il nous prêtera deux tableaux pour l'exposition de Delémont.
Niklaus Manuel Gudel, directeur des archives Jura Bruchweiler, était au micro de François Comte hier soir dans Place publique. A noter que la toile de Ferdinand Hodler, qui s'est vendue le plus cher sur le marché, a dépassé la somme de 10 millions de francs. Du changement à la tête de la division commerciale du Centre jurassien d'enseignement et de formation. Loïc Stalder a été nommé aujourd'hui au poste de directeur par le gouvernement jurassien. Il remplace Éric Jauret suite à son départ prochain en retraite et prendra ses fonctions le 1er octobre prochain. Loïc Stalder occupait le poste de directeur adjoint depuis février 2014. Dans ses délibérations, l'exécutif jurassien a également approuvé une subvention de 345 000 francs à la commune de Clos-du-Doubs. Elle servira à son projet d'amélioration de 5 tronçons de chemins ruraux, ainsi qu'au raccordement des fermes de la Lomaine et de Brunefarine au réseau d'eau communal. La région n'a pas à avoir honte de son passé anarchiste. C'est la vision de José Ribaud. Le journaliste jurassien établi à Berlin vient de se plonger dans le combat des ouvriers devenus anarchistes dans la seconde partie du 19e siècle. Il présentera son analyse en conférence ce soir dès 19h30 à l'Espace Noir à Saint-Imier. Le vent de contestation s'est levé en 1866. On approche donc des 150 ans. José Ribaud apprécierait que la région profite de cet anniversaire pour mettre sur pied différents événements.
Je propose qu'on fasse un grand spectacle, son et lumière, sur les personnages, sur les bâtiments qui restent encore de cette époque-là, il y en a encore plusieurs, et puis une grande exposition où on essayerait d'obtenir ce qu'il y a dans les archives de pays étrangers, notamment à Trèves, où est né Karl Marx. Il y a encore beaucoup, beaucoup de correspondances entre Karl Marx et les Jurassiens, et surtout à Amsterdam, où il y avait un historien fasciné par le socialisme qui a fait une grande collection, il l'a vendue, puis ça a été tout racheté par l'Institut international de recherche sociale ou d'histoire sociale à Amsterdam. Ces documents devraient revenir ici pour une grande exposition.
La conférence de José Ribaud sur la naissance de l'anarchisme dans la région, c'est à 19h30 à l'Espace Noir à Saint-Imier. Retrouvez un entretien complet demain dans la matinale et sur rfj.ch. Le canton de Neuchâtel va fermer le centre d'accueil de la Ronde, situé à La Chaux-de-Fonds. Une décision annoncée ce matin et qui fait suite à la diminution des demandes d'asile. L'infrastructure héberge une soixantaine de requérants qui seront progressivement transférés en appartement ou au centre de tête de rang. La fermeture aura lieu à la fin de l'année et entraînera la suppression d'une dizaine d'emplois. La concentration des activités de la SSR à Zurich et à Lausanne fâche du côté de Berne. Les interventions de l'ensemble de la région capitale suisse, qui comprend aussi Neuchâtel, Fribourg et le Valais, n'y auront rien changé. La formation de la radio alémanique se traitera à Zurich. Le conseil d'administration de la SSR a apporté hier son soutien à ce transfert qui fait partie d'un plan d'économie de 100 millions de francs. Le conseiller aux États fribourgeois, Beat von Lanten, s'était engagé contre ce déménagement. Il ne croit pas à l'impact réel de la mesure.
Je suis bien évidemment très déçu de cette décision. Je pense qu'elle est l'expression d'une non-sensibilité de M. China, du conseil d'administration et aussi de M. Marchand. Je trouve qu'une entreprise comme la SSR ne peut pas nier son implantation dans un contexte de service public où les différentes régions doivent aussi être prises en considération. Prise au sérieux.
La RTS envisage de son côté de transférer à l'horizon 2024 le département information de la télévision de Genève à Lausanne. L'annonce est malvenue pour le libéral radical genevois Hugues Hiltpold.
Le risque, c'est qu'avec ce qui est annoncé aujourd'hui par la SSR, c'est que vous braquiez finalement les régions, vous fassiez des insatisfaits qui pourraient avoir des mouvements d'humeur et sanctionner d'une certaine façon la SSR. Il faut se rappeler que la votation sur nos bilans, je l'ai combattue, prétextant qu'il y avait une bonne implantation dans mon canton à Genève. Là, on se rend compte qu'il y a une volonté à terme, même si c'est loin, mais quand même à terme, de délocalisation, ce qui ne me paraît pas une bonne solution pour Genève et pour toute la Romandie.
Un dossier de notre correspondant à Berne, Jérôme Favre. Le mandat de service public de la SSR pourrait être modifié lors du débat sur la loi sur les médias électroniques, actuellement en consultation. Les exportations suisses restent stables. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de revenus de 1,4 milliard de francs en août. Les instruments de précision ont enregistré une solide hausse de 1,6%, tout comme le secteur de l'horlogerie qui enregistre une augmentation de 5,5%. Dans l'actualité étrangère, Shinzo Abe reste Premier ministre du Japon. Il a été largement réélu aujourd'hui pour 3 ans à la tête du Parti libéral radical. Ce succès prolonge mécaniquement son bail de chef du gouvernement. Shinzo Abe a obtenu 553 voix contre 254 pour son rival, l'ex-ministre de la Défense Shigeru Ishiba. Il s'offre ainsi la possibilité de rester à la tête du pays jusqu'en 2021 et battre ainsi un record de longévité. Et voilà une rencontre qui donne un nouveau souffle aux négociations entre Pyongyang et Washington. Le sommet entre les deux Corées s'est achevé ce matin avec la visite d'un lieu mythique pour le peuple coréen, le mont Paektu. La veille, Kim Jong-un avait accepté de fermer un site de test en présence d'experts internationaux. Une annonce saluée par les États-Unis qui se sont dit prêts à reprendre les pourparlers sur la dénucléarisation de la Corée du Nord dans les 3 ans.
RFJ, il est 12h25.
Le sport avec la loterie romande.
Les Jeux équestres mondiaux commencent de la meilleure des manières pour Steve Guerda. Le cavalier de basse-cour a fait main basse sur la chasse la nuit dernière aux États-Unis. Le Jurassien a remporté cette première épreuve du côté de Trione en montant en Bianca. Le duo s'est montré le plus rapide, Steve Guerda.
C'était un bon parcours pour moi. J'avais vu beaucoup de parcours en presque 9 heures de temps. Il n'y avait pas de folie à faire pour gagner l'épreuve. Et je savais qu'en gardant le plan que j'avais dès le départ, dès ce matin, sans prendre de risques avec lesquels je n'étais pas vraiment confiant, c'est jamais assez pour être premier, deuxième, troisième ou quatrième, en tout cas pour être dans les 5 premiers. Et tout s'est vraiment bien passé et je suis très content. Je n'ai pas l'impression d'avoir dû vraiment faire des folies pour gagner, donc c'est important aussi pour la suite des championnats.
Et la suite, c'est aujourd'hui et demain, avec chaque fois un parcours comptant pour le classement individuel et par équipe. Steve Guerda mène le bal devant le Brésilien Pedro Venis et l'Australien Rowan Willis. L'équipe de Suisse de saut d'obstacle est également en tête. Elle précède les Pays-Bas et le Brésil. Le HC Ajoie étoffe son contingent avec une vieille connaissance. Le club jurassien de Swiss League de hockey sur glace accueille Christian Zuleski, il l'a indiqué ce matin. Ce défenseur est mis à disposition par le HC Bienne via une licence B. Âgé de 21 ans, il connaît déjà le vestiaire à Joulot. Christian Zuleski a porté le maillot à la Vouivre à 41 reprises lors de l'hiver 2016-2017. Et le HC Franche-Montagne est lui prêt à repartir au combat. Le club Taignon se lance samedi dans une nouvelle saison de Première Ligue de hockey sur glace. Les Taignons l'entameront à domicile avec la réception de Sastal à 17h15. Le HCFM a été couronné vice-champion romand la saison dernière. Il avait buté sur Sierre en finale. Des Valaisans qui évoluent désormais une ligue au-dessus des Jurassiens. De quoi faire du HCFM le favori de ce nouveau championnat? La réponse de l'entraîneur franc-montagnard Fabrice De Sarzin.
L'année passée, on a gagné pas mal de matchs d'un goal d'écart, donc on n'avait pas une supériorité aux autres à dire que cette année, on va baronner. Loin de là, je pense que le championnat va être plus serré. On voit toutes les petites équipes, Genève, Vallée de Joux, qui ont engagé des ténors de Ligue B. On voit Fischer à Mérin, on voit certains joueurs qui ont rejoint cette ligue. Donc je pense que toute équipe s'est bien renforcée. Je vois même Saint-Imier en match amical contre eux, je les ai trouvés très équilibrés. Donc on voit rien de facile. Ça peut aller vite fait dans un sens comme dans l'autre. Ça peut dépendre des situations, justement des situations spéciales, de l'arbitrage. Tout d'un coup, on peut perdre un match d'un goal. Et il faut aussi un petit peu de réussite qui fait qu'à la fin, on a 3-4 points d'avance, puis on se situe dans les 4 premiers où on commence les playoffs à la maison. Et ça peut avoir son importance, on l'a vu l'année passée.
L'actualité se décline dans les flashs tout au long de l'après-midi. Et belle journée.
Merci Émilie. La météo, c'est tout de suite. Et dans quelques secondes, il y aura une naissance à vous annoncer. C'est toujours un temps ensoleillé et chaud que nous annonce Météo News pour la suite de cette journée avec le développement de cumulus de beau temps cet après-midi. Le mercure va grimper, lui, jusqu'à des maxima de 24 degrés aux Franches-Montagnes, 28 en Ajoie et dans la vallée et 27 en Prévôté. Demain, c'est encore un temps assez ensoleillé le matin qui est prévu, puis on nous annonce des passages nuageux en augmentation avec quelques averses en fin de journée. Il fera à l'aube entre 14 et 16 degrés, puis au meilleur de la journée, 20 à 1000 mètres et 24 en pleine.